Essentiel. Bien plus que de la radio. L'actu parle, Sophie et Lauriane.
Salut à toutes et à tous, au travail ou en vacances, on espère que vous passez un bel été. Un été dans l'actu parle qu'on a voulu mettre sous le signe du choix. Et aujourd'hui, c'est le choix de Sophie qu'on découvre.
Et oui, Lauriane, s'il fallait choisir une interview qui m'aura marqué cette année, ce sera celle de Kim Fook. Elle a fait le choix de la paix après avoir connu la guerre. Grièvement brûlée à l'âge de 9 ans à la suite d'une attaque au napalm, sa photo a fait le tour du monde et nous avions eu le privilège de la rencontrer. Elle nous avait alors livré son témoignage bouleversant.
Un témoignage qu'on va retrouver, Sophie, juste après l'interview de notre expert qui était alors revenu sur le contexte de cette guerre du Vietnam.
L'actu parle sur Essentiel Radio.
En ligne avec nous, Benoît de Tréglaudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et directeur de recherche à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de plusieurs livres sur le Vietnam. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif « Histoire du Vietnam de la colonisation à nos jours » paru en 2018 aux éditions de la Sorbonne. J'ajoute enfin que vous êtes chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Essentiel Radio.
À leur côté actu, on fête cette année les 40 ans d'un film mythique sur la guerre du Vietnam, « Apocalypse Now », un film de Coppola qui vient de recevoir le prix Lumière du Festival de Lyon pour sa carrière. Alors en tant qu'historien, Benoît de Tréglaudet, quel est votre regard sur ces nombreux films qui ont décrit la guerre du Vietnam et l'après-guerre aussi?
La guerre du Vietnam a toujours été pour l'Occident une sorte de catharsis, quelque chose de très fort, parce que c'était un point de contact entre une histoire colonial passé, un monde d'hier qui était véritablement en train de s'échapper comme du sable dans une main, et une civilisation n'était pas mesurable, qui n'était pas franchement entendable selon des critères très très rationnels. Donc c'est vrai qu'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola joue sur ce fantasme, joue sur ce délire exotique. Il faut savoir que le film n'a pas été tourné au Vietnam à cette époque-là, il a été tourné aux Philippines, mais c'est tout cet excès, cette démesure, cet exotisme du Vietnam qui fait que ce film a une telle portée. Après, la France et le Vietnam, qui ont été deux parties prenantes dans la guerre dans ce pays depuis la fin du Second Conflit mondial, ont naturellement eu des comptes à rendre avec leur propre histoire, avec leur propre mémoire nationale. Et il y a eu toute une série de cinéastes qui ont travaillé sur la guerre d'Indochine, donc la guerre d'Indochine qui a marqué l'histoire de la France de 1946 à 1954, et naturellement énormément de cinéastes américains qui se sont appropriés en fait cette histoire du Vietnam des années 60 jusqu'aux 70 jusqu'à ce fameux repli en fait de l'armée américaine sur les toits de l'ambassade à Saigon en avril 1975.
Alors malgré tous ces films dont on vient de parler, la guerre du Vietnam, c'est un conflit qu'a priori on connaît peu en France. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans un micro-trottoir. Qu'évoque donc la guerre du Vietnam? Je vous propose d'écouter les réponses.
Je sais pas.
Je peux pas vous raconter exactement dans quel cadre ça s'est passé, mais je connais parce que j'ai vu ça à l'école, quoi.
Oui, on connaît légèrement l'histoire, le conflit entre les États-Unis et le Vietnam. Fin.
C'est un conflit qui est révolu, enfin qui est terminé en tout cas.
Bon, ce qu'on nous enseigne dans les programmes d'histoire, quoi. Après, je suis pas un grand pro en histoire, dans un contexte de guerre froide, je crois, mais je suis pas sûr de ça.
Alors, une guerre peu connue, comme on le disait, et pourtant la France et le Vietnam ont été liés par le passé, vous en parliez à l'instant. Ça aussi, peut-être qu'on le sait un peu moins aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette histoire coloniale, Benoît de Tréglaudet, pour nous?
D'abord, le temps est passé, il faut remettre ça dans une perspective historique, hein. La guerre d'Indochine qui a vu s'affronter en fait le corps expéditionnaire français sur place et les troupes vietnamiennes remonte à la fin des années 40 et s'est terminée dans la boue en fait du site de Dien Bien Phu en mai 1954. Donc ça fait quand même de nombreuses décennies, les gens ne sont plus les mêmes, les générations ont passé. C'est pareil pour la guerre américaine qui s'est achevée en avril 75. Et donc encore une fois, il y a cet aspect temporel qui fait que on parle d'une époque qui est révolue, qui est lointaine, qui est passée. Et puis il y a aussi un second facteur qui est clairement, en fait, la tyrannie de la géographie. Le Vietnam, c'est loin. La France a la mémoire de la guerre en France est bien plus vivace, bien plus forte quand on pense à l'Algérie. Et elle est très différente quand on pense au Vietnam. L'Algérie, c'était une colonie de peuplement. Donc, il y a énormément de Français qui vivaient et qui travaillaient sur le sol algérien. le Vietnam, c'était une colonie d'exploitation, donc les Français étaient bien moins nombreux sur place dès la fin du 19e siècle, et donc il y a nécessairement un effet en fait d'élitement, d'éloignement qui marque en fait la mémoire nationale.
Alors je reviens à cette guerre du Vietnam, qu'en est-il du pourquoi de ce conflit ? Est-ce qu'on peut parler d'une guerre idéologique ?
Oh, il y a naturellement les causes sont jamais très simples. C'est une guerre qui est à la fois idéologique et c'est aussi une guerre qui est civile, qui a vu l'affrontement en fait des Nord-Vietnamiens contre le Sud-Vietnamien, d'un régime Nord-Vietnamien pro-communiste avec un régime Sud-Vietnamien qui était plus soutenu par les Américains dès le milieu des années 50. Donc c'est clair qu'il y a un contexte, de guerre froide, d'opposition entre les blocs. La rivalité sino-américaine en Asie en pleine guerre froide et il y a aussi la complexité et la grande complexité en fait de l'histoire même de ce pays qui est le Vietnam où les populations du nord et du sud se sont sans cesse mises en rivalité au cours de l'histoire.
Alors vous citiez les États-Unis, on peut dire qu'il y a eu plusieurs mouvements de contestation concernant cette guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi une telle impopularité ?
Il faut se remettre dans le contexte des années 60. Les années 60 ont été marquées aux États-Unis, mais également en France et dans la plupart des pays occidentaux ou même au Japon, par l'émergence d'une contre-culture très forte, un mouvement culturel développé et porté par des pacifistes, porté aussi par des partis communistes ou des partis pro-maoïstes de par le monde, porté par une jeunesse en recherche d'émancipation, en fait en recherche de libération pour toute une série de causes, des causes raciales, des causes de mœurs sexuelles, du droit des femmes, etc. Et j'en passe. Donc toute cette contre-culture a véritablement été centrée sur une lutte également contre la guerre du Vietnam et les présidents américains qui ont lancé les États-Unis dans la guerre du Vietnam, je pense à Kennedy jusqu'à son assassinat, mais surtout à son successeur, le président Johnson, qui lui a été le président de la guerre du Vietnam pour les États-Unis, donc qui était en poste aux États-Unis de 1963 à 1968, a dû gérer cette contre-culture, a dû gérer cette impopularité qui était liée encore une fois à un grand mouvement de bouleversement sociologique dans sa société. Et pas uniquement à la question de la guerre au Vietnam.
Alors en ce qui concerne les armes utilisées par les États-Unis, les questions de l'agent orange, du napalm aussi, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on peut parler d'armes de destruction massive ?
Alors il faut déjà pas tout mélanger. Oui. Le napalm a été utilisé pour la première fois, pas au Vietnam, mais il a été utilisé sur les côtes françaises, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au large de Saint-Malo, si mes souvenirs sont exacts. Et par la suite, effectivement, les Américains, la France d'abord, parce que je crois que le corps expéditionnaire français a utilisé pour la première fois du napalm contre les Vietnamiens au Nord-Vietnam en 1951. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment une spécificité en fait américaine, mais c'est vrai que les Américains ont utilisé massivement cette arme pendant leur guerre de 65 donc à 72 et qu'elle a été à l'origine du massacre de nombreux Vietnamiens pendant la guerre. C'est une arme qui a été interdite par la suite d'utilisation contre les populations civiles, mais par les Nations Unies, mais juste en 1980. Donc on estime vraiment que cette arme a participé véritablement au massacre à très grande ampleur en fait de la population vietnamienne.
Alors il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire sur ce qu'on a appelé la sale guerre, une guerre que les États-Unis vont perdre au bout de près de 15 ans de conflit. Benoît de Tréglaudé, quelles ont été les conséquences de cet échec sur la puissance américaine ?
Il faut remettre aussi encore une fois en perspective le fait que les États-Unis, qui étaient omniprésents pendant la guerre froide, qui étaient vraiment, véritablement le gendarme du monde, se sont retrouvés confrontés à un petit pays, à une petite nation rurale. Ils ont été conduits en fait à l'échec, et ça a été un traumatisme qui a eu des conséquences à la fois psychologiques, politiques, mais également diplomatiques sur la scène internationale très fortes. La guerre du Vietnam, c'est près de 3 millions d'Américains qui sont passés par ce pays pendant la durée de la guerre, mais c'est 60 000 tués au combat. Et donc effectivement, c'est quelque chose dont les marques sont toujours encore très vivaces aujourd'hui. Et si vous écoutez les députés au Congrès américain, la mémoire de la guerre américaine, c'est aujourd'hui quelque chose d'encore très fort.
Et alors, côté vietnamien, le bilan humain reste, je crois, très difficile à établir. Toutefois, quelles sont les conséquences de ces événements sur le pays au lendemain de la guerre, mais peut-être aussi sur le Vietnam d'aujourd'hui ?
Vous évoquiez donc le bilan humain. Côté vietnamien, il y a des chiffres. Vous évoquiez la question de l'agent orange, le napalm et des combats plus conventionnels. On évoque la mort de 1,5 million de Vietnamiens et dont une part extrêmement importante de civils. Donc cette mémoire, elle est naturellement dans toutes les familles du Nord-Vietnam, du Sud-Vietnam. Elle est très vivace, mais aussi elle est construite sur aussi désormais une symbolique de la victoire. N'oublions pas que les Vietnamiens sont sortis victorieux des grandes nations internationales et qu'ils en ont construit grâce à la propagande de leur parti communiste vietnamien, qui est quand même très forte pour cultiver la mémoire de la guerre depuis un demi-siècle. Et ils ont réussi à renverser en fait ce traumatisme humain qui est indéniable comme étant aussi une fierté patriotique de leur devenir en tant que nation émergente désormais sur la scène régionale.
Alors Benoît de Tréglaudet, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais pour finir, et alors qu'on va écouter d'ici quelques minutes Kim Phuc brûlé au napalm durant cette guerre, on le rappelle, est-ce qu'on peut vous entendre sur ce célèbre cliché ?
C'est un cliché qui, bon, vous savez, les guerres et la guerre du Vietnam a été la première guerre qui a été marquée à ce point-là par les médias, par l'utilisation des films, l'utilisation de la photographie, mais c'est un cliché qu'il faut recontextualiser, c'est un cliché qui a été pris en juin 1972, et qui montre encore une fois la fin et l'absurdité de la guerre. Kim Phuc a été victime d'un bombardement au napalm, fait par erreur par l'armée du Sud-Vietnam contre son propre camp. Et ça marque aussi, d'un point de vue historique, le tournant d'une guerre. En 72, les Américains étaient déjà en train de partir du Vietnam. Les troupes américaines au Vietnam étaient bien moins nombreuses que lors de l'apogée, en fait, de la présence américaine dans le pays en 1968. Et c'était vraiment une photo qui marque un tournant et la chute progressive de tout un régime et de toute une image du Vietnam qui s'était tournée contre le Nord et le communisme au Vietnam. Il y a une forte portée symbolique effectivement de cette photo. C'est l'absurdité d'une guerre et la fin d'un régime.
Benoît de Tréglaudet, merci pour votre expertise. Pour nos auditeurs qui voudraient aller plus loin, on recommande l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, aux éditions de la Sorbonne. Merci encore et à bientôt sur Essentiel.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Là que je parle, Sophie et Lauriane.
Il est temps pour nous de marquer une courte pause en musique avec un titre de circonstance. L'histoire de la petite fille brûlée au napalm a inspiré la slameuse Neis. On écoute Je cours et on se retrouve tout de suite après avec Kim Phuc pour un témoignage exceptionnel. À tout de suite.
Ce mois de juin 1972 est tellement étouffant. J'ai appris à 9 ans ce que voulait dire le mot bombardement. Il vole au-dessus de moi tellement lentement. Ça fait maintenant 3 jours que le village est en plein...
Là que je parle, Sophie et Lauriane.
Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui on a l'immense privilège d'entendre le témoignage bouleversant de Kim Phuc.
Grièvement brûlée lors d'une attaque au napalm pendant la guerre du Vietnam, sa photo a fait le tour du monde. Elle était à Genève il y a quelques jours à l'occasion de la présentation de son livre autobiographique « Sauvé de l'enfer » paru aux éditions Urania et elle a bien voulu répondre à nos questions.
Mais avant d'entendre l'interview réalisée, on a voulu recueillir quelques réactions sur ce célèbre cliché. Je vous propose d'écouter.
Oui, elle a remporté un prix il me semble cette photo... C'était il y a quelques années, il me semble. Donc oui, j'ai déjà vu cette photo.
Oui, on voit donc des enfants qui sont apeurés, qui sont suivis par des soldats. Alors, je ne sais pas si ce sont des soldats américains, mais ce sont des enfants du Vietnam.
Ils ont des visages assez décharnés, c'est assez effroyable quand même.
Il y a des enfants qui courent, enfin, qui essayent de s'échapper de la guerre... Des combats en tout cas, ouais, qui essayent de les accompagner, on va dire, je sais même pas.
De la tristesse, c'est une guerre, c'est des enfants, c'est malheureux. Voilà.
La guerre, la peur,
l'atrocité, l'humanité, j'ai envie de dire.
Ouais.
Pour moi, c'est des choses qui malheureusement sont pas terminées, par contre, pour le coup, qui sont encore bien présentes un peu partout sur la planète. Et elles représentent juste. J'ai envie de dire le côté obscur de l'humanité.
Atrocité, tristesse, on a entendu des mots forts. Je pense que cette photo ne laisse personne indifférent, en tout cas.
Ouais. Et puis même si on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé durant cette guerre au Vietnam, cette photo, beaucoup de personnes l'ont vue et elle est plus connue que la guerre en elle-même.
Effectivement, et on l'a entendu là aussi, elle symbolise quelque part un peu toutes les guerres et toutes les victimes innocentes de ces guerres-là. Quelqu'un disait, ce n'est pas terminé, effectivement.
Et c'est justement pour ces victimes que Kim Phuc se bat aujourd'hui. Je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage.
L'actu parle, Sophie et Lauriane.
Alors c'est une femme souriante qu'on a eu l'occasion de rencontrer, malgré les grandes souffrances qu'elle a vécues. Quel est le secret de ce sourire? On lui a posé la question.
Mon secret, c'est que Dieu a guéri mon cœur. Il m'a donné la paix et la joie, malgré toutes mes cicatrices, mes souffrances et les difficultés que j'ai dû affronter. Il a guéri mon cœur. C'est pour ça que je souris tout le temps. Je n'ai plus besoin de me faire du souci ou de m'inquiéter. Je sais que Dieu prend soin de moi. Il me donne sa paix et sa joie. Je lui fais confiance et je lui obéis chaque instant de ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne me fais plus de soucis comme d'autres personnes peuvent s'en faire ou comme moi-même je m'en faisais avant.
Un sourire malgré les souffrances, et quelle souffrance! La date du 8 juin 1972 restera à jamais marquée dans la mémoire de Kim Phuc. Elle a bien voulu nous partager le récit de cette terrible journée.
J'avais 9 ans et je me rappelle bien de ce qui s'est passé. Ce jour-là, on s'était réfugié dans le temple Cao Dai, près d'un abri anti-aérien. On avait le droit de jouer ici avec tous les enfants. Après le repas de midi, on était en train de s'amuser et je me souviens que des soldats sont venus en criant « Sortez du temple! Sortez de là! Courez !» Alors on a commencé à courir avec les autres enfants et quand je suis arrivée à l'extérieur du temple, je me souviens avoir vu cet avion qui fonçait droit sur nous à toute vitesse et dans un vacarme énorme. J'ai levé les yeux et j'ai vu 4 bombes descendre doucement en direction du sol. D'un seul coup, tout s'est embrasé autour de moi. Mes habits ont pris feu et j'ai vu mon bras gauche s'enflammer. J'ai cherché alors à l'éteindre avec ma main droite et c'est pour ça qu'elle est brûlée aussi. À ce moment-là, je me suis dit, « Mon Dieu, je suis brûlée, je vais être affreuse et les gens ne me regarderont plus jamais de la même façon. » J'étais juste terrifiée et j'ai continué à courir pour échapper aux flammes. Il y avait mes 2 frères et mes 2 cousins et puis des soldats et on courait encore et encore jusqu'au moment où je n'ai plus réussi à avancer. J'étais à bout de force. Je me suis arrêtée et j'ai crié « C'est trop chaud, ça brûle !» Un des soldats m'a donné à boire et comme il voulait m'aider, il a aussi versé de l'eau sur tout mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé ensuite.
14 mois d'hospitalisation, 17 interventions chirurgicales, c'est ce que subira Kim Phuc suite à cette attaque au napalm, immortalisée par une photo rentrée depuis dans l'histoire. Ce cliché, tout le monde le connaît aujourd'hui. Mais que pense Kim Phuc de cette photo? Quel regard porte-t-elle sur cette image dont elle est le sujet principal? On écoute ce qu'elle nous a confié.
Avant, je détestais cette photo. La première fois que je l'ai vue, j'ai pensé, pourquoi avoir pris une photo si horrible de moi? Vous comprenez, je suis une fille et je me sentais tellement gênée d'apparaître ainsi, nue, en train de pleurer et d'hurler de douleur et d'effroi. Vraiment, je n'ai pas aimé cette photo pendant longtemps. Mais maintenant, quand je la regarde, je suis tellement reconnaissante. Ce cliché est devenu pour moi un cadeau incroyable. Je n'en voulais pas au départ, mais j'ai finalement pris la décision de l'accepter. Et c'est aujourd'hui une joie pour moi de promouvoir la paix grâce à cette photo et d'aider les gens qui souffrent comme j'ai souffert, surtout les enfants.
La paix, c'est vrai que Kim Fook en parle beaucoup dans son livre, La paix dans le monde, bien sûr, puisqu'elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1997, mais aussi la paix intérieure que Kim Fook va enfin trouver lorsqu'elle se convertit, qu'elle décide de croire en Jésus-Christ à l'âge de 19 ans.
Oui, et il y a aussi, Lauriane, un autre thème très présent dans l'histoire de Kim Fook, c'est le pardon. Dans son livre Sauvée de l'enfer, elle écrit que le pardon est toujours la meilleure des réponses. Pourtant, lorsqu'on sait tout ce qu'elle a enduré, on peut s'interroger.
C'est clair, il y a d'abord l'énorme injustice de ce bombardement au napalm, il va quand même coûter la vie à deux de ses cousins et entraîner pour Kim Fook d'immenses souffrances physiques et de très nombreuses opérations. Il y a aussi ses terribles cicatrices, très dures à accepter, le regard des autres qui change, sa meilleure amie qui lui tourne le dos.
Et puis il y a aussi sa scolarité complètement gâchée et l'instrumentalisation politique, le kidnapping, comme elle l'écrit, par le régime communiste vietnamien. Dans ces circonstances, comment pardonner ? Kim Fook nous a confié que cela n'avait pas été facile, loin de là.
J'ai dû apprendre à pardonner et ça a été un grand défi pour moi. Honnêtement, c'est impossible. Comment peut-on aimer ses ennemis? Comment leur pardonner? Au début, il n'en était pas question et je pensais que je n'y arriverais jamais. J'avais tellement d'ennemis, tellement de gens m'avaient fait souffrir. Alors non, c'était tout simplement impossible. Pourtant, j'avais foi en Jésus. Je lisais la Bible et je voulais obéir à Dieu. J'ai vite réalisé que par moi-même, je ne réussirais pas à pardonner. J'avais besoin de l'aide de Dieu. Sur ce chemin du pardon, la première étape a donc été d'arrêter de me demander « Pourquoi moi ?» À la place, j'ai demandé à Dieu « S'il te plaît, aide-moi ». L'étape suivante, c'était de lui faire confiance et de lui obéir, croire qu'il était capable de réaliser l'impossible dans ma vie. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 33, c'est mon verset préféré de la Bible, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » J'ai donc prié Dieu pour qu'il me révèle la clé de ce pardon qui était pour moi inaccessible. Et il l'a fait. L'étape numéro 3 a été d'arrêter de me plaindre. À la place, je me suis mise à compter les bienfaits de Dieu dans ma vie, l'un après l'autre. Et plus je les comptais, et plus je réalisais combien Dieu m'aimait. La prière que Jésus fait lorsqu'il est cloué sur la croix m'a beaucoup aidée. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai compris que je devais faire ce que Jésus avait fait. Les personnes qui étaient à l'origine de mes souffrances ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Alors j'ai arrêté de souhaiter leur mort et de vouloir qu'elles souffrent encore plus que moi. J'ai commencé à prier pour elles. Et plus je priais pour mes ennemis, plus mon cœur devenait léger. À tel point que je me suis dit un jour, « Waouh, mon cœur est en train de changer. C'était un miracle. Je me sentais libérée. Le pardon avait envahi tout mon cœur. » Pour moi, c'était vraiment le ciel sur la terre. Bien sûr, il a fallu que je persévère sur ce chemin du pardon. Et depuis, j'applique la règle des 3D. Le premier D est celui de désirer. Je dois avoir le désir d'aller de l'avant, de pardonner, d'aimer les gens qui m'ont fait souffrir, parce que je ne peux pas changer ce qu'ils m'ont fait dans le passé. Le deuxième D est celui de la détermination. Je dois rester déterminée dans ma décision de pardonner. Le troisième D est celui de la discipline. Je dois me discipliner pour ne pas laisser la colère s'installer de nouveau. C'est ainsi que la liste de mes ennemis est devenue ma liste de prières et que j'ai appris à pardonner. C'est vraiment extraordinaire.
Extraordinaire, c'est vraiment le mot quand on lit l'histoire de Kim Fook et aussi quand on voit ce qu'elle fait aujourd'hui pour les enfants du monde entier à travers la fondation qu'elle a créée. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette fondation? On lui a posé la question.
J'ai toujours voulu aider les gens, en particulier les enfants. Je me souviens quand j'ai eu mon premier garçon, Thomas, quand j'ai tenu mon bébé pour la première fois, que je l'ai regardé et que j'ai regardé aussi cette fameuse photo, là, j'ai reçu comme un coup au cœur. Ça m'a bouleversée. Je me suis promise de ne jamais laisser mes enfants souffrir comme la petite fille de la photo. Je devais faire quelque chose, agir du mieux que je pouvais pour le protéger et lui éviter de souffrir. Pas seulement lui, mais tous les enfants du monde. À partir de là, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider les enfants au travers de la Fondation internationale Kim.
Une vie consacrée aux enfants et pourtant cette fondation aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, Kim Fook a traversé de telles épreuves qu'elle a un jour songé au suicide. On lui a demandé pour terminer cette interview quel message elle souhaitait transmettre aux personnes qui ressentent elles aussi un tel désespoir.
Ma vie a été marquée par de nombreuses souffrances, à la fois physiques, émotionnelles, spirituelles. Je souffrais tellement à l'intérieur comme à l'extérieur que j'ai souvent pensé mettre fin à mes jours. Je cherchais la vérité et je l'ai finalement trouvée en lisant la Bible. C'est Jésus, c'est lui le véritable espoir. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions et tout ce dont j'avais besoin. À vous qui souffrez et qui peut-être pensez à la mort, j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas, je vous en supplie. Il y a toujours un espoir en Dieu, en Jésus. Et comme cette petite fille sur la photo s'en est sortie, je souhaite que vous aussi, vous trouviez cette paix, cette joie et cet espoir que Jésus seul peut donner.
Là que je parle, Sophie et Lauriane.
Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur essentielradio.com ou alors sur notre appli. Et ne manquez pas de partager ce témoignage et ce message plein d'espoir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On attend aussi vos réactions sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777, le 07 87 250 777.
La semaine prochaine, nouvelle émission, nouveau choix. D'ici là, restez connectés à Essentiel et faites le choix de la générosité sur soutenir.essentielradio.com. Un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Ensemble, on peut arriver à 100% de notre objectif.
On compte sur vous. En attendant, on vous souhaite une belle semaine et puis on vous dit à très vite sur Essentiel. Salut!
Salut!
Là que je parle, sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.